RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
L'IGG, les grandes gueules, c'est avec vous bien évidemment, c'est en direct sur RMC la radio, RMC Story, la télé. Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, Laura Barton-Martinez, sophrologue, et Mourad Boudjelal, éditeur de bande dessinée, sont avec nous et avec vous bien sûr. De quoi va-t-on parler dans dans la suite de l'émission? Du congé paternité, doit-on obliger les pères à le prendre? L'audiovisuel public, le rapport est publié, il inquiète France Télévisions, mais est-ce qu'il faut quand même envisager une fusion de certaines chaînes? Et puis tout à l'heure, le face au GG. À partir de 11h, ce sera avec Robert Bourgis, l'ancien conseiller officieux, l'homme de la France-Afrique, celui qui balance sur Dominique de Villepin. Il sera l'invité des GG, l'invité des grandes gueules. Vous avez aussi les vacances à gagner, les vacances Bel en Bras. C'est du tout compris premium. Il suffit d'envoyer vacances par SMS au 732-16, vacances par SMS 732-16. Et vous pourrez partir dans l'un des clubs et hôtels Bel en Bras. 45 destinations au choix. Faut pas vous gêner, c'est simple comme un SMS. Et le gagnant sera avec nous tout à l'heure, en direct au téléphone à 11h20. Allez, on file, on parle congé paternité. Vous savez que l'un des objectifs aujourd'hui de ceux qui nous gouvernent, c'est de nous permettre de sortir de l'hiver de la natalité. Alors pour ça, on met en place un certain nombre de dispositifs, en particulier le congé paternité.
Oui, au 1er juillet 2026, donc dans quelques mois maintenant, les nouveaux parents vont pouvoir bénéficier d'un congé de naissance supplémentaire de 2 mois par parent. L'objectif donc de cette mesure est de renforcer l'égalité entre les deux parents lors des naissances. Mais le Haut Commissariat au plan, présidé par l'ex-ministre Clément Beaune, va encore plus loin dans une note.
Vient de lui apprendre qu'il présidait le Haut Commissariat au Plan.
Dans une note révélée en exclusivité sur RMC, il va plus loin, le Haut Commissariat au Plan. Il propose d'ajouter 1 mois supplémentaire, donc on passerait de 2 mois de congé de naissance à 3, mais à condition que ce mois supplémentaire soit pris par les pères, parce que les pères, en général, ne prennent pas les congés naissance qu'on leur attribue. Donc l'objectif est d'inciter les pères à prendre leur congé. Aujourd'hui, 4 papas sur 10 ne prennent pas la totalité de ce à quoi ils ont droit pour des raisons multiples, pour des raisons financières, pour des raisons professionnelles, tout ça aussi parce qu'ils n'ont pas envie de les prendre. Mais voilà. Alors, est-ce qu'il a raison, Clément Beaune, de vouloir imposer 1 mois de congé de naissance au papa, ou est-ce qu'on est une fois plus dans ce qu'on appelle l'état nounou, l'état qui infantilise et qui veut régler toute notre vie?
Alors, est-ce que tu aurais pu les prendre, est-ce qu'aujourd'hui tu aurais pu le prendre, toi, ces congés paternité?
J'ai toujours été mon propre employeur, donc je peux faire ce que je veux, mais par contre j'en ai beaucoup qui en ont pris. Mais ça démontre encore une fois de plus qu'on est dirigé par des gens qui sont hors sol. Déjà, lorsque un salarié est en congé maternité ou paternité, ce qui est tout à fait normal, on a le droit de faire des enfants quand on est salarié, bien sûr, une partie du salaire est prise en charge par l'entreprise. Alors que le deal, c'est quand même, je veux dire que embaucher quelqu'un, c'est pas l'adopter. Il y a quand même une différence entre le code du travail et le code de l'adoption. Mais par moment, on a l'impression que c'est un peu ça. S'il lui arrive des soucis dans sa vie, il est malade, une partie est prise en charge par l'entreprise, les 6 premiers mois. Quasiment 50%. Charger, plus les charges. S'il a un décès, il a droit à des jours, ce qui est normal aussi, mais c'est pris en charge par l'entreprise. Alors maintenant, c'est l'entreprise qui doit régler le problème de la natalité. Continuons, les entreprises vont crever, il y aura beaucoup d'enfants dans ce pays, mais ils seront tous au chômage. Ils seront tous au chômage parce qu'il n'y aura plus de boulot. Continuons à faire porter le poids et donner une dimension sociétale au travail et aux entreprises, et on va voir où on va aller. Aujourd'hui, sachez que par rapport aux charges et aux cotisations qui pèsent sur une entreprise, le retour est quasiment obsolète. Quasiment obsolète. Et en plus, on veut en rajouter. On veut en rajouter. Non, que les gens fassent plus d'enfants, je pense que le problème, il est d'abord lié à une situation anxiogène, à une situation un peu égoïste. On arrive dans un monde où effectivement, on est dans une société consumériste, où aujourd'hui, à une époque, plus ancienne, le mariage, l'objectif, c'est de faire des enfants. Aujourd'hui, le mariage, c'est le premier objectif, c'est d'abord de profiter de la vie à deux, parce qu'on a tellement de possibilités
c'est
qui sortent.
Aussi, hein.
Et puis ensuite, c'est l'économie. Je veux dire, il est clair que faire un enfant, ça coûte de l'argent. Et je voudrais juste expliquer une chose à nos politiques. J'ai pas pu le dire tout à l'heure. Il y a deux modèles de concevoir l'économie. Et je pense que nos politiques vont. Je suis pas sûr qu'ils comprennent parce qu'ils ont fait l'ENA. Il y a ce qu'on appelle les finances publiques. Et aujourd'hui, l'objectif est de faire en sorte que les finances publiques aillent bien, au détriment du bien-être des Français. Il faudrait juste qu'ils comprennent que si demain on faisait l'inverse, on faisait en sorte que les Français aillent bien, les finances publiques iront bien, naturellement. Il y a un lien entre les deux. Mais on le fait à l'envers. Au lieu d'abord de s'occuper de faire en sorte que l'économie des Français, que de créer du pouvoir d'achat, créer de la croissance, redonner de l'économie pour créer de la consommation, et tout cet assemblage va faire que les finances publiques iront très bien, on a tout axé uniquement sur les finances publiques qui iront bien par l'impôt et la taxation. Et c'est mortifère comme économie, et ça va nous amener dans le mur. On y va tout droit, je ne sais même pas si on n'est pas déjà entré.
Alors, congé paternité, Laura.
Moi, il y a deux points. Le premier point, c'est là où je rejoins Mourad, c'est qu'on a toujours l'État qui fait porter ses décisions, soit sur les particuliers avec de l'impôt direct, soit sur les entreprises. Les entreprises financent tout ce que l'État ne peut pas financer. C'est leur méthode économique, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Et pour ce qui est des responsables, on le voit par exemple avec les retraites, c'est pas de la faute du système de retraite, c'est la faute des vieux. Voilà. Donc ça, c'est pour la première chose. Et où je pense que Jean-Loup va aussi en remettre une couche, donc c'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. Et maintenant, sur l'obligation. Mais foutez la paix aux gens. Enfin, je veux dire, on sait déjà la difficulté que c'est pour une femme de retourner sur le marché du travail. Et quand, en plus, on a des entretiens d'embauche, on nous dit, est-ce que vous avez des enfants? Oui, non. Donc si tu en as, ils partent du principe que tu vas être souvent malade parce que tu vas t'occuper de des gamins. Et si t'en as pas, ils vont partir du principe qu'à un moment donné, tu vas faire faux bond. Et en soi, je peux même comprendre l'employeur en te disant, mais ouais, mais moi, si elle se met en congé maternité pendant 3 mois, bah, c'est galère. Faut que je la remplace, mais faut que je la remplace
avec par exemple. Est-ce que le père de ton enfant...
Mais moi, j'allaitais, en fait.
Aurait pu prendre ce congé d'un mois ou de deux mois, maintenant.
Oui, il aurait pu.
Mais pourquoi il l'a pas fait?
Mais parce que j'allaitais et que je ne voulais pas mettre ma fille sous biberon.
Non, mais d'accord, mais il peut faire autre chose. Le congé naissance, c'est pas uniquement pour l'allaitement ou donner le biberon.
Mais moi, c'est pour ça que moi, je m'en suis occupée. Et mon mari, il aurait fait...
Il n'y a pas seulement l'allaitement.
Excusez-moi du peu. On oublie un tout petit peu maintenant avec ces idées d'égalité, de parité, etc., qu'une mère, jusqu'au 1 an du bébé, normalement, on doit être collé à notre bébé. Normalement, un bébé doit dormir avec ses parents, en tout cas avec sa maman. C'est biologique, c'est comme ça. Dans quel autre animal vous voyez ça?
Il y en a jusqu'à 30 ans.
Le père, bien sûr, ne va pas remplacer la maman, mais le père est là aussi pour alléger le travail de la maman. Et c'est quand même plus simple quand il y a une autre personne avec toi.
Ça veut dire aussi que les deux parents se passent tous les deux d'une partie de leur salaire. Et là, on arrive à toucher au portefeuille.
Mais c'est pas la faute de l'entreprise.
Donc, à un moment donné, on en revient toujours à la même chose. Libérer cette fiscalité
Une seconde. Une boîte qui aurait uniquement 20 personnes féminines comme salariées, si les 20 personnes tombent enceintes en même temps, ce qui n'est pas interdit, la boîte dépose le bilan.
Oui.
La boîte dépose le bilan. Voilà. Dans le système d'aujourd'hui.
Avec ce genre de raisonnement, c'est sûr qu'on ne fait plus d'enfants, là.
Non, mais il n'est pas question de ne pas faire d'enfants.
Il est question de dire que ce n'est pas une entreprise de supporter
les choses.
Jean-Loup, est-ce que c'est une bonne idée d'essayer d'imposer au père ce fameux congé de naissance?
De futur mangeur de poulet.
Voilà. Alors, de poulet français. Alors, je n'ai absolument aucune idée sur le sujet. Je ne sais pas. C'est un dossier que je ne connais pas. Je ne me suis pas posé la question, donc je ne peux pas te répondre. Tu veux, j'ai une anecdote quand même.
Ah.
C'est que ma mère n'a pas pris de congé maternité. Tout s'est bien passé, je suis né un mercredi, le lundi elle était au taf, quoi.
Ouais, enfin,
oui, trois jours après,
tout s'est bien passé, je suis né à terme, il n'y a pas eu de problème.
Mais vous vous souvenez que Rachida Dati, quand elle était ministre, elle était revenue très rapidement bosser.
Une semaine après,
on lui avait reproché. On lui avait dit, elle rend pas service aux femmes.
Mais de toute façon, une femme, elle est toujours critiquée.
Voilà, de toute façon, une femme, elle ne fait pas de chirurgie esthétique, elle se laisse aller. Elle fait de la chirurgie esthétique, elle ne veut pas vieillir. Elle est grosse, elle ne prend pas soin d'elle, elle est maigre, c'est une anorexique. Elle ne s'occupe pas de ses gamins. Enfin, elle repart travailler direct. Elle repart travailler direct. Elle est carriériste. Elle rend pas service aux femmes. Elle reste trop longtemps. Elle prend un congé maternité et ensuite un congé parental. C'est une feignasse. Après, elle pèse sur les sociales. Donc, de toute façon, ne cherchez pas. Dès qu'une femme fait quelque chose, elle a tort.
Il y a quand même peut-être une chose à distinguer. C'est que, pour les hommes, ce sera peut-être plus facile à un salarié de s'arranger avec son employeur. Oui. Tandis que si tu es
indépendant. Si le télétravail règle tout aujourd'hui.
Travailleur indépendant, artisan, profession libérale, c'est toi qui génères ton revenu. On peut pas t'obliger.
Moi,
C'est que, bon, j'ai pas d'avis sur le sujet. Par contre, j'ai une question, qu'une question logique. Ok, on peut dire ça sur l'égalité des sexes. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis. Mais par contre, je ne vois pas en quoi ça va relancer la natalité. Je vois le lien logique.
Mais il y en a pas.
On nous dit, faut faire ça pour relancer la natalité. C'est-à-dire, là, j'ai du mal à voir
le gouvernement qui pense que
c'est pas pour relancer la natalité.
Non, l'argument numéro un, c'est l'égalité homme-femme. C'est ce qu'il dit dans
ça permet aussi.
En quoi ça concerne le haut commissariat?
Il y a surtout les gouvernants qui pensent qu'on ne fait pas d'enfants parce qu'il nous manque un mois de congé maternité.
Il faut bien justifier l'emploi fictif des mecs du haut commissariat.
Non, mais peut-être qu'un couple peut se dire, tu vas être avec moi pendant 2 mois et ça va m'aider. Ça va nous aider à la naissance de l'enfant.
Moi, je suis sûr qu'il y a plein de femmes qui ne veulent pas avoir leur mari toute la journée dans les pattes.
Moi, je pense qu'un couple, la première question qui se pose, c'est si on fait un enfant, est-ce qu'on va devoir déménager?
C'est ça.
Ça, c'est la première question.
Si
on va devoir déménager, qu'est-ce que ça va nous coûter en plus?
Le mode de garde.
Le mode de garde. Comment on va faire pour s'organiser? Qu'est-ce que ça va changer dans notre vie? Combien ça va nous coûter? C'est ces questions. Donc, c'est pas de savoir s'il y a un mois dans une vie, c'est court. S'il y a un mois de congé maternité ou paternité.
On va au 32-16. Écoutez, Rémi, carboriculteur dans la Drôme. Bonjour Rémi.
Ouais, bonjour les GG.
Bonjour. Comment ça va? Est-ce que vous auriez pu prendre vos 2 mois, vous? Dites-moi.
Ah ben 2 mois, certainement pas. Arboriculteur, j'y ai une fille qui a eu 1 an au mois de mars, donc elle est née au mois de mars 2025. C'est le début de ma saison. En aucun cas, j'aurais pu prendre 2 mois. J'ai pu prendre 15 jours. Pourquoi? Parce que je travaille en famille, je suis co-associé, donc j'avais quand même du monde sur l'exploitation. Mais si j'avais personne sur l'exploitation, dès le lendemain de la naissance, il aurait fallu que je retourne travailler. Donc en fait, il faut arrêter d'obliger les gens déjà à faire quoi que ce soit. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus dans un pays dictature.
Mais c'est l'État nounou, hein. C'est l'État qui décide pour vous ce qui est bon pour vous et votre femme.
Une dictature, bon, on en est, hein. Si vous voulez. Mais moi, enfin, pourquoi on laisse pas les gens s'organiser comme ils le veulent?
Tout à fait.
Moi, j'ai l'impression que c'est un pied de nez à l'égalité homme-femme, comme si on va aller obliger le père à rester avec son bébé le premier mois, et après il fait quoi? Il déserte. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'éducation d'un enfant se résume à 1 mois. C'est complètement débile comme raisonnement.
Je suis d'accord. Et une fois de plus, on oppose les Français parce qu'il y a les salariés et ceux qui le sont pas.
Oui, mais c'est ce que je pense, que cette proposition déjà elle émane d'un haut fonctionnaire, Clément Beaune.
Sont déconnectés du monde réel.
C'est presque un gros mot.
C'est vrai, comme le dit Alain, dans la fonction publique ou dans le salariat privé, c'est plus simple parce que dans les grosses boîtes, etc., tu peux t'organiser. C'est vrai que tu es agriculteur, artisan, profession libérale.
C'est plus compliqué.
Mais oui, mais parce que c'est des gens qui ne connaissent pas une bonne partie de comment les gens vivent.
Rémi, reste avec nous pour écouter le témoignage de Christelle. Elle est dans le Lot. Bonjour Christelle.
Bonjour les GG, bonjour tout le monde.
Bonjour. Ça va Christelle, enceinte?
Oui.
Félicitations.
Félicitations.
Alors, moi je vous appelle parce que notre parcours est très atypique. J'ai 45 ans, on est en parcours PMA, donc on a enfin réussi après être partie en Espagne à avoir un bébé. Donc
bravo,
c'est pour le mois de décembre. Excusez-moi, je suis émue. Et moi je vous appelle parce qu'en fait, nous on a une boulangerie. Mon conjoint est le patron.
Il va s'organiser.
Ouais, ben non, ça va pas être possible parce qu'on est en sous-effectif, on galère depuis 2 ans, on est toujours plus taxé, on n'arrive pas à recruter. Et donc, lui, il fait comment pour prendre 1 mois de congé en sachant que c'est les fêtes, il va y avoir les bûches, il va y avoir les galettes. Après, c'est pas qui s'enchaîne. On est toujours plus taxé, donc il faut pouvoir quand même travailler pour payer les charges. Donc, on fait comment? Donc, c'est bien mignon tous ces congés. C'est très bien.
D'accord. Notre haut commissaire n'a pas prévu d'indemniser les professions libérales, juste
c'est
les salariés.
C'est toujours pour les mêmes. C'est toujours pour les salariés. Mêmes. Et les indépendants, ben, c'est marche ou crève.
Mais c'est vrai. Vous connaissez la formule de Woody Allen sur les enfants? C'est pas pour vous décourager. Bon, non. Je vais pas vous la donner.
Mais c'est toujours pareil. Et bon, c'est vrai que c'est rageant parce que lui, il aimerait pouvoir profiter de ce moment-là.
Comme disait Olivier, il a raison. Les hauts fonctionnaires pensent qu'il n'y a qu'une catégorie, c'est les salariés. Oui. Les autres n'existent pas. Il y a une partie de la population aujourd'hui qui n'a pas droit au congé paternité ou maternité, qui n'a pas droit au congé payé, qui n'a pas droit aux arrêts maladie ou aux maladies payées, qui n'a pas droit à rien, qui n'a pas droit à payer.
Et cette partie-là, on n'en parle jamais.
Mais par contre, bonne nouvelle pour les Français, il n'y a plus de problème de garde d'enfants. Parce que Clément Beaune, qui a beaucoup de temps libre, va venir garder vos enfants pour relancer la natalité. Il est très disponible, a énormément de temps libre. Il n'a pas un emploi très prenant. Donc Clément, garde d'enfants pour relancer la natalité.
Il est démontré, Jean-Loup, il ne va pas me démentir, que c'est dans les sociétés qui vont bien.
Christelle, Clément, lui, a beaucoup de temps libre.
Vous êtes à Gourdon, dans le Lot. Comment s'appelle votre boulangerie ?
C'est la boulangerie Dom et Michael.
Et quelle est votre spécialité à la boulangerie ?
Il fait de nous saliver.
On fait tout maison. On fait nos viennoiseries maison, le pain, la pâtisserie.
Génial.
Prendre un croissant au beurre.
Ah oui, ils sont très bons.
et vos pains, là, c'est lequel votre spécialité ? Dites-moi.
Alors, dans le Lot, on fait le croustillote. C'est un pain de campagne qui est fait entièrement en circuit court. C'est-à-dire de la graine jusqu'au boulanger, entièrement génial. Dans le Lot.
Eh ben bravo Christelle, bravo. Merci d'avoir été avec nous, Christelle de Gourdon, et puis bonne grossesse ma chère
merci
Christelle,
beaucoup.
Profitez bien, vous nous tiendrez au courant, bien sûr. Voilà. Si vous voulez, ce sera un garçon ou une fille, vous savez ou pas ?
Non, on pas encore. Sait pas encore, ce sera la surprise.
Bon d'accord. Voilà. Si c'est un garçon, vous l'appelez Alain. Si c'est une fille, vous l'appelez Olivia.
Vous l'appelez Clément.
Comme ça.
Non, Laura. Vous l'appelez Laura.
Salut Christelle. On vous embrasse. À bientôt.
Le meilleur pour vous, Christelle,
dans les grandes gueules. Allez, on a posé la question, faut-il obliger les papas à prendre un mois de congé, le mois de congé naissance, oui ou non ? Vous mettez non, pas d'obligation.
Ouais. Ça, c'était la bonne idée du gouvernement.
Hein. Non, c'est pas le gouvernement, c'est M. Beaune.
À 82%. Dans un instant, on va rouvrir le dossier carburant. Notre chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, assure qu'il va redistribuer le surplus de perception, l'argent en plus. Ouais. Est-ce que vous êtes sûr qu'il va le faire ? 32-16 pour venir en discuter avec les GG, il est 10h20.
RMC, 9h, midi. Les Grandes Gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
J'ai les grandes gueules sur RMC et RMC Story avec aujourd'hui Laura Vartan-Martinez, sophrologue, et avec Jean-Loup Bonamy, professeur de philosophie, avec Mourad Boudjelal, qui est éditeur de bande dessinée. On va parler des carburants et du surplus de taxes. Le gouvernement, Sébastien Lecornu, le Premier ministre, nous fait une promesse. Tous les 10 jours, on va vérifier le surplus. On va vérifier combien on a gagné et ensuite voir comment on le redistribue.
Déjà, le gouvernement a changé dans la façon de communiquer sur ce sujet parce que j'ai retrouvé la déclaration de monsieur David Amiel qui est, comme chacun sait, ministre des Comptes publics. Et voilà ce que disait le jeune David Amiel il y a quelques mois. Il n'y a évidemment pas de cagnotte fiscale. Bon, alors maintenant, non seulement il y en a une, mais tous les 10 jours, on va la calculer. Donc ça veut dire quand même qu'on s'y intéresse. Et finalement, on sait maintenant que chaque mois, depuis que la guerre en Iran a été déclarée, l'État percepteur récupère plus que prévu, grâce à la hausse des prix du carburant. Le surplus de recettes fiscales avait atteint 270 millions d'euros en mars pour l'État. Et là, on est sur le mois d'avril à 190 millions d'euros de recettes. Donc ça fait quand même plus de 400 millions d'euros de recettes. Alors on nous explique, c'est Monsieur Lecornu, que ce surplus finance intégralement les 380 millions d'euros d'aide. Bon, déjà on en a un petit peu plus, donc à quoi va servir le petit plus ? On va nous expliquer également que on veut électrifier le pays, et donc cet argent va aussi servir à financer le besoin de passer tous en électrique. Est-ce que vous faites confiance à Monsieur Lecornu pour bien utiliser cette cagnotte fiscale,
Laura,
qui existe bel et bien ?
Alors non, en plus le calcul est faux, le calcul est beaucoup plus, la réalité est beaucoup plus, puisque déjà il y a une différence, il y a moins 15% de consommation, donc en plus c'est un surplus fiscal avec une baisse de la consommation, et il y a toujours et encore, et je le répète, cette fameuse taxe sur la transition écologique qui n'était pas au budget. Donc on multiplie encore la cagnotte fiscale. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il me semble que ces gens-là sont censés être les représentants des citoyens. Et il ne me semble pas que la transition écologique arrive en premier dans les préoccupations des Français. La préoccupation numéro un, c'est le pouvoir d'achat. Ça, c'est numéro deux. Numéro trois, ils vont nous faire des aides. Il va pas bien falloir payer des gens pour mettre ces aides en place, pour envoyer les petits papiers, pour faire les petits calculs, parce qu'apparemment l'État n'a toujours pas compris qu'on a un truc formidable qui est à notre disposition, ça s'appelle l'intelligence artificielle. Mais non, on va continuer, on va peut-être même sous-traiter, parce qu'on va pas avoir les capacités à l'instant T de faire ce travail. Donc une fois encore, nous avons un État qui est complètement inutile, qui ne répond pas aux besoins des Français. Je suis désolée. Et qu'est-ce que j'avais dit ? Je le répète et je le redis encore. Nous allons avoir une récession. Je l'avais dit en tout début de crise. Regardez ce qui va se passer. Les gens vont moins consommer. Les gens vont moins se mouvoir. Maintenant, nous avons des infirmières libérales qui choisissent leurs patients. Donc, il y a des gens qui ont moins de soins. Mmh. Vous avez des entreprises qui ferment ou qui sont déjà en redressement fiscal. Donc, nous allons avoir du chômage à payer. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous étions à plus 2 en croissance et nous sommes de nouveau à zéro. Et comme ça va continuer, vous allez voir que d'ici un mois ou deux, nous entrons dans une phase de récession. Félicitations, monsieur Le Cornu.
Après, c'est pas la guerre, ça dépend pas de nous. Hein,
ça ne dépend pas de nous, mais ce qui se passe.
Taxes, oui. Non, ça va dire, on a subi.
Je vais faire un compliment à monsieur Macron. Je trouve que monsieur Macron se comporte très bien dans ce conflit. C'est-à-dire qu'il reste à l'écart et qu'il ne piffe pas. Et pour une fois, quand il se laisse, ça fonctionne. En revanche, la manière dont c'est géré à l'intérieur, c'est catastrophique.
Alors, restons sur cette cagnotte. D'ailleurs, le mot cagnotte n'est pas utilisé par monsieur Le Cornu.
Non, il n'y en avait pas, mais en fait, il y en a une.
Surplus de recettes fiscales.
Profiteur de guerre.
Distribuer la fameuse cagnotte qui normalement n'existait pas. Mais je vais quand même faire un détour puisque tu disais la guerre, on l'a subi. Mais je pense que après tout, il y a des difficultés économiques qui sont dues à une guerre. Et ben, il faut envoyer la facture à Monsieur Netanyahou. C'est lui qui l'a voulu cette guerre, donc qui la paye. C'est lui qui devrait prendre. C'est sur le budget israélien et américain que devraient être pris les coûts économiques pour les autres pays. Nous, cette guerre injuste, nous ne l'avons pas voulu. Nous la subissons. Ben, on devrait envoyer la facture à ceux qui l'ont voulu.
Il y a l'Ukraine,
à ceux qui pensaient qu'en 15 jours, ça allait être réglé. Voilà, pareil. Donc, ça, c'est...
Une fois que tu as dit ça, on a quand même un problème avec des prix à la pompe à plus de 2 euros et l'État qui prend plus de 50% dessus.
C'est pas nous qui avons voulu que le détroit d'Ormuz soit bloqué.
Bon. Mais ça révèle des problèmes.
Et donc, moi, je propose d'envoyer la note à Washington. Et voilà.
Oui, on l'a compris.
Donc, faut le dire.
Hein. Oui, mais réponds à la question de la cagnotte.
La guerre aux Américains et
ensuite,
Israël.
Voilà pourquoi je voulais passer première.
Et ensuite, la cagnotte. Bah, moi, je pense que, vu comme l'argent est globalement mal utilisé de manière générale, je pense qu'il faudrait juste l'affecter au désendettement de l'État. Voilà.
Très bien.
Je pense qu'il faudrait juste l'affecter au désendettement et toujours vouloir redistribuer. Tu vois, culte permanent de la redistribution.
Donc, on n'aide pas les professions les plus touchées, par exemple.
Plutôt que de faire de la démagogie, c'est de la démagogie, quoi. C'est
ça. Mais par contre, Mourad, il a proposé d'autres solutions. Donc, moi, je propose une double solution. C'est-à-dire, on utilise cet argent plutôt que de le redistribuer avec, de toute façon, des procédures qui sont des usines à gaz. C'est tellement compliqué d'avoir une aide ou de te faire prendre en charge ton carburant. Donc, plutôt, on se sert de cet argent pour désendetter, contribuer au désendettement de l'État, plutôt que de le redépenser et d'être dans la course folle de la redistribution. Et puis, par ailleurs, on avait évoqué la piste du forage de l'hydrogène sur le long terme, la piste du gaz de schiste, et également à plus court terme, il y a un pays qui s'appelle la Russie.
On leur achète du pétrole de façon détournée en passant par l'Inde, en le payant 20% plus cher.
Et donc, on pourrait le payer moins cher.
On pourrait le payer moins cher.
On peut acheter du pétrole russe.
Il y a un choix. Alors, moi, j'ai bougé, je deviens patriote à fond. Et je me dis que... Moi, je pense que ces 200 millions, qui c'est pas une recette fiscale, c'est du pouvoir d'achat retiré aux Français. C'est pas de la recette fiscale du pouvoir d'achat retiré aux Français, parce que de toute façon, ils les auront pas sur la consommation. Moi, je suis pour qu'on récupère les 17 milliards qu'on aura prêtés à l'Ukraine, plus ces 200 millions, et qu'on les injecte dans le pouvoir d'achat des Français. Qu'on fasse en fait un prêt de 17 milliards pour redonner du souffle à l'économie, pour redonner du souffle aux Français et de la confiance, et pour relancer notre économie. Ça me paraîtrait bien plus intéressant pour le pays qu'aller prêter 15 ou 17 milliards à l'Ukraine.
Qu'on ne reverra jamais,
de façon à ce que quelques Ukrainiens s'achètent les plus belles villas de la Côte d'Azur à 450 millions d'euros, ou alors qu'on essaie de construire une Europe qui n'a aucun fondement, à part son côté belligérant.
Ils nous envahissent de leur poulet qui assouplit notre agriculture.
Donc, en plus.
Non, mais le problème, le pétrole, on en a d'ailleurs, parce qu'on en achète beaucoup en Norvège, et du pétrole algérien, etc. Le problème, c'est pas ça. C'est le problème, c'est le prix, en ce moment.
C'est l'offre et la demande. Et puis, pourquoi l'État refuse tout ce que les gens demandent et les répètent et tabassent d'enlever cette fameuse taxe de 17 centimes? Mais parce que pourquoi? Quand l'État va donner, parce que je crois qu'on est sur 50 balles, le chèque. Oui. Et quand vous allez remettre 50 euros à la pompe, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez repayer 60% de taxes. Donc, en fait, l'État vous file 20 balles. Mais il va pouvoir dire, nous avons aidé les Français. Mais que les gens se rendent compte. Et moi, encore une fois, je suis désolée. On oublie de croire avec ce système. système qu'ils ont de tout décider et d'avoir la main mise sur l'ensemble des décisions de ce pays, on oublie que la raison première d'existence de ce gouvernement, c'est d'être la voix des citoyens et
non,
des Français.
C'est plus ça.
Je veux dire, la première interrogation et problématique des Français, c'est le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on en a à faire de financer une transition écologique qui va en plus servir aux Chinois?
Mais non, Laura, aujourd'hui leur objectif, c'est d'avoir un cul posé à l'arrière sur une bagnole et qu'elle démarre avec un chauffeur. Enfin, c'est leur seul objectif.
Là, vous êtes, pardon, t'es contradictoire. C'est-à-dire que là, on se rend compte que c'est pas notre guerre, qu'on subit, comme le dit Jean-Loup, et en même temps, tu refuses de trouver d'autres solutions. Parce que si on est moins dépendant au pétrole que nous n'avons pas.
Je pars juste à l'instant T. J'ai toujours dit, j'ai jamais dit de la supprimer, j'ai dit de la suspendre, cette taxe.
Oui.
C'est juste histoire de faire passer.
On est content d'avoir du nucléaire en ce moment, par exemple.
Mais bien sûr, tu la suspends à l'instant T. Effectivement, nous devons. Et ça, moi, j'ai toujours hurlé.
Arrête de subventionner l'éolien.
Oui, déjà, l'éolien, ça ne sert strictement.
Arrête d'hyper subventionner l'éolien.
Au lieu de mettre des sous dans les éoliennes, tu mets des sous dans des bornes de recharge, parce que moi, je vois la seule borne de recharge qu'il y a, il y en a 4, elles sont sur le parking du supermarché. Donc, t'arrêtes avec tes éoliennes qui, plus, polluent une fois qu'elles arrêtent de fonctionner. Les agriculteurs qui ont eu des subventions, mais c'est à eux de payer pour la destruction de l'éolienne.
Ils ne peuvent pas les recycler.
Donc, au final, c'est catastrophique. Eh bien, tu fais ça, tu mets des bornes de recharge, parce que la première chose que les gens te disent pour ne pas acheter une voiture électrique, c'est: je suis en appartement, où est-ce que je recharge ma voiture?
Oui. Donc voilà. Et comment je fais plus de 100
km? Mais encore une fois, on ne réfléchit pas. Je suis effarée. Je me dis, ces gens-là ont fait des
aujourd'hui,
études.
Ce gouvernement, enfin les gouvernements que nous avons, sont totalement décalés de la réalité, ne respectent plus les Français parce qu'ils ne les écoutent plus. Et surtout, on a affaire à des gens qui n'ont jamais travaillé, qui n'ont jamais créé un emploi, qui n'ont jamais payé un euro de charge sociale, qui ne connaissent pas le monde réel. Ce sont des gens qui vivent sur PS5. Et ils veulent gérer la réalité en ayant un monde qu'ils n'ont vu que sur PS5. C'est pas possible. Le monde réel, c'est pas celui-là. On l'a vu dans tous les sujets, qu'il y a un décalage. Moi, je t'explique une chose. Je connais quelqu'un qui a une entreprise de transport. Voilà. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le transport? Faut savoir qu'en général, quand le coût du transport augmente, ce qui est transporté augmente aussi. C'est la logique. Bon, ben, c'est 30 camions à l'arrêt, 30 personnes licenciées. Et tu sais ce qu'on lui a proposé pour pallier à la hausse des prix? On lui propose un prêt à taux zéro. Mais il s'en fout d'un prêt à taux zéro.
Oui.
Parce que lui, c'est la marge qui perd. Le prêt, il devra le rembourser. Ça va impacter sa marge.
On va aller
c'est
voir.
Là où les gens sont décalés.
On va aller voir.
De marge et trésorerie.
On va aller écouter Julien, notre ami dans l'immobilier du côté des Bouches-du-Rhône à Marseille. Bonjour Julien.
Salut les GG.
Le Cornu, le Premier ministre promet de redistribuer le surplus. Qu'est-ce que vous en dites?
Je pense que le Cornu ne comprend rien à l'économie.
Mais oui.
Tous les ministres de Macron ne comprennent rien à la vraie économie. Parce que on n'aide pas les Français. On a un tout petit surplus de taxes, 200 millions d'euros, peut-être même un peu moins.
C'est rien.
Mais
hein.
Combien ça coûte en point de PIB et donc en rentrée fiscale et donc
bien
à l'économie?
Bien
combien
sûr.
De milliards
bien sûr.
La France a perdu sur le premier trimestre. Uniquement à cause du coût des carburants. Moi, j'étais en Espagne il n'y a pas très longtemps, j'ai fait mon plein à 1,46€. Pourtant, je ne comprends pas qu'il y ait de pétrole en Espagne.
Non. En gasoil ou en...
En 95. En gasoil, 1,70€. J'ai regardé, j'ai pris la pompe.
On est à 2,25€ chez nous.
2,70€ chez moi à la pompe à Marseille. Donc, il y avait 1€ de différence sur le litre de gasoil.
Et le Portugal va redistribuer de l'impôt.
2,70€?
Ah oui, à Marseille.
Ah ben, boire au col, le bien choisi.
Il y a 10 jours, c'était à 2,70€.
Comment on allait en Alsace ce week-end, 2,60€?
Certaines stations.
Ouais,
il y a eu des stations, c'est à ce prix-là, bien sûr.
Vous savez que si on revient en francs, le coût du litre de gasoil, c'est 15 francs. 15 francs, un litre de gasoil.
Pour
revoir un mot. Non, mais c'est 15 francs. À l'époque, 15 francs, ça représentait
quelque
chose. Mais comme
Mourad et moi, on est pour en revenir aux francs de toute façon.
On est pour revenir à la souveraineté française. On est pour retrouver notre souveraineté.
Avec la dévaluation. Voilà. Et
pour aller.
Julien.
Ursula von der Leyen à Bruxelles et la mettre en prison.
Oui, enfin, c'est pas elle qui est responsable.
L'incarcérer immédiatement.
C'est pas elle qui est responsable.
Sans jugement.
Des taxes françaises.
Sans jugement. 20 ans.
Les taxes françaises sont des taxes franco-françaises, j'ai envie de dire, puisqu'on voit bien qu'en Italie, en Espagne, pour le même produit, on paye moins cher.
Aujourd'hui, il y a des pays en Europe où on redistribue de l'impôt.
Parce qu'ils sont mieux gérés.
Voilà, parce qu'ils sont mieux gérés, bien sûr, parce qu'ils sont mieux gérés.
Julien, aujourd'hui.
Le problème de la France, c'est la médiocrité de notre classe politique. Et malheureusement, j'ai peur que l'élu, il soit pas encore né.
Mais justement, Julien, ce que je voulais savoir, c'est vous ne pouvez pas vous passer de votre voiture, là, aujourd'hui.
C'est du travail, c'est de l'impôt indirect.
Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Il y a 10 ans que j'ai anticipé un peu tout ça. Parce que les Français n'ont pris aucune précaution, il faut le dire aussi. Ça fait je sais pas combien de décennies qu'on dit que l'essence va flamber, que les prix d'énergie vont flamber. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai acheté ma maison il y a 9 ans. J'ai mis des panneaux solaires. une petite éolienne. J'ai acheté une voiture électrique et j'ai converti mon véhicule principal à l'éthanol. Je vous garantis que la crise, pour moi, ne me touche pas du tout. Mais pour autant, c'est un drame pour l'économie française.
Ça, oui. Voilà, vous pouvez faire comme moi. Moi, depuis, je mets toujours 50 euros. Donc je
c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens font des demi-pleins, quoi, en fait.
Ouais, moi, je mets 50 euros.
C'est ce qu'ils font aujourd'hui, Julien. Je vous remercie d'avoir été dans les GG. À bientôt pour de nouvelles discussions. Est-ce que vous pensez que le Premier ministre va vraiment redistribuer le surplus
Premier
de taxes
élu, Premier ministre d'un gouvernement élu par personne. Hein.
C'est un non à 94% quasiment. Dans un instant, le rapport à l'oncle sur l'audiovisuel public, ça y est, il est publié. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de chaînes de France Télévisions ? Si oui, lesquelles ? Vous avez des idées ou pas ? Peut-être que non, vous ne voulez pas qu'on touche au service public. C'est le moment d'en discuter avec les grandes gueules. Il est 11h25.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Stories, avec Mourad Boudjelal, Laurent Varton-Martinez et avec Jean-Loup Bonamy. Si vous avez raté les GG, vous avez les podcasts à votre disposition et les podcasts avec toutes les petites discussions que les grandes gueules peuvent avoir comme ça en off. Et je vous conseille notamment une discussion autour d'un dessert danois dont nous a parlé l'ami Jean-Loup Bonamy qui l'aura envie d'été. Mais je vous laisse découvrir ça sur les podcasts. Si on parlait de France Télévisions. Est-ce qu'il faut réduire le nombre de chaînes ? Le rapport à l'oncle est public du nom de Charles à l'oncle, Charles-Henri à l'oncle, rapporteur UDR de cette commission sur l'audiovisuel public, et il veut supprimer, voire fusionner certaines chaînes.
551 pages, ce rapport. Donc il faut le lire. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que M. Lecornu a réagi ce matin à ce rapport qu'il n'a pas lu, qu'il n'a pas encore lu. Ça manque un petit peu quand même de sérieux tout ça, mais on voit bien que le rapport à l'oncle fait réagir beaucoup de monde. C'est devenu la chose la plus importante, ce rapport sur l'audiovisuel public. Touche pas à mon service public. Madame Ernotte vient de répondre également. Elle fait une longue réponse en expliquant que ce rapport allait dans la mauvaise direction. Pourquoi ? Parce que ce rapport à l'oncle, déjà, il préconise une cure d'austérité. Il estime que 4 milliards, c'est trop pour l'ensemble du service public. C'est-à-dire, là, on parle à la fois de France Télé et de Radio France. Il dit qu'il faut 1 milliard d'euros d'économie. Et pour cela, il préconise des fusions de chaînes. Il préconise, par exemple, la fusion entre France 2 et France 5, entre France 24 et France Info, la chaîne Info TV. Il estime également qu'il y a un manque de neutralité dans le service public et qu'il faut revoir tout ça. Et puis aussi les fameux conflits d'intérêts qu'il dit avoir mis en lumière, notamment entre les boîtes privées qui travaillent pour le lumière. Service public et des passerelles parfois un peu étonnantes entre les uns et les autres. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Alon qu'il faut faire 1 milliard d'euros d'économie et donc peut-être supprimer, privatiser ou fusionner certaines chaînes ?
De toute façon, de manière...
Est-ce que tu regardes le service public déjà ? Quelles sont tes chaînes ?
Alors c'est plus des émissions, tu vois, les compléments d'enquête, ça je regarde, enquête exclusive, parce que y a quand même des sujets qui sont pas hyper vendeurs, mais tu vois, le complément d'enquête, j'ai regardé celui sur Dominique de Villepin là, qui est sorti le 30 mars. Ils ont fait un complément d'enquête, une enquête exclusive sur.
C'est sur le service public, pardon.
Je crois que c'est France 2.
Je sais plus. C'est M6.
C'est pour ça.
Et ensuite, je regarde tout ce qui est pièces de théâtre. En fait, moi, j'ai l'application. Donc, c'est pour ça que je sais jamais quelle chaîne je regarde. J'ai l'application France TV et je regarde les trucs dessus. Mais de toute façon, factuellement, c'est une entreprise qui est en déficit. Je crois que c'est à plus de 81 millions de déficit, là. On doit faire des coupes budgétaires. Si on veut préserver le service public, chose pour laquelle je suis, si on veut le garder, on est obligé de faire des coupes budgétaires. Ensuite, je suis pour...
Est-ce qu'il faut faire 1 milliard ? Parce que là, la question est concrète. Est-ce qu'il faut 1 milliard d'économies, fusionner des chaînes ?
Après, moi, je ne sais pas combien il faut. Maintenant, est-ce que oui, il y a des chaînes qui peuvent fusionner ? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des services qui peuvent fusionner ? La réponse est oui. Est-ce que tout
Donc,
est nécessaire ?
Donc, plutôt d'accord avec Charles Hallon qui dit faut réduire la voilure.
Ça, et je suis aussi pour des appels d'offres publics et qu'on sache pourquoi on prend tel prestataire plutôt que l'autre.
Charles Hallon, mon ami.
On est une seule et même personne ne nous a jamais vu ensemble.
Je trouve qu'ils se ressemblent assez. On ne s'est jamais vu dans la même pièce.
C'est qu'on a fait une émission ensemble sur ce plateau.
Oui, c'est vrai.
C'est la blondeur.
Mais bon, j'avais pris une doublure. Et donc, Non, mais c'est intéressant parce que justement, quand j'écoute les réactions de la caste politique, politico-médiatique, je suis un peu surpris. Ça me rappelle le mot, il y a un écrivain de la fin du XVIIIe siècle qui s'appelait Champfort et qui disait qu'en France, la tradition française, c'était de persécuter ceux qui sonnent le tocsin. C'est-à-dire quand tu essayes d'être un peu un lanceur d'alerte qui tire la sonnette d'alarme, bah c'est justement toi qui deviens le problème. Là, c'est pareil, on a l'impression que le problème, c'est Charles Lalonde, le problème. Alors qu'en fait, Charles Lalonde, il a mis en lumière des choses très intéressantes. Le déficit, les 4 milliards de budget. Malgré ces 4 milliards de budget, en plus, il y a un déficit. Les suites d'hôtels à 1 800 €, les notes de taxi stratosphériques, les conflits d'intérêts. Voilà pourquoi est-ce que France 5 fait produire la majorité de ses émissions par des boîtes privées pour des coûts exorbitants, alors que normalement, ça pourrait être fait en interne. Et justement, avec des conflits d'intérêts majeurs. Enfin, il souligne toute une série de problèmes. D'ailleurs, dans ses préconisations, en fait, il est assez modéré, parce qu'à aucun moment, il dit qu'il faudrait supprimer, à aucun moment, il dit qu'il faudrait privatiser. Tu sais qu'il y a certaines forces politiques qui proposent de privatiser. Lui, il dit pas du tout, il dit « je veux sauver le service public ». Et curieusement, ça devient Charles Lalonde le problème. Voilà, c'est lui qu'on attaque, c'est lui qu'on accuse, on ne lit même pas son rapport, alors qu'il y a quand même un gros travail. Le gros travail d'enquête qui a été fait en commission après le gros travail de rédaction. Et curieusement, ben, on l'attaque lui. Non, moi, je suis un peu surpris de ce rapport très intéressant sur la manière...
Tu regardes le service public ou pas?
Je regarde pas la télévision de manière générale.
Ah bah voilà.
Donc, mais Madame Ernotte, elle est triste. Elle va aller où? À l'hôtel ensuite, au Festival de Cannes, la Bichette.
Là, ils ont réduit la voilure. Mourad, est-ce que tu regardes le service public?
Ouais, moi, je suis pour économiser 4 milliards.
Ah, carrément.
Ouais, c'est plus simple parce que j'estime que c'est pas le rôle de l'État que de vendre de l'information, que de vendre du divertissement, que de vendre des jeux. Voilà, c'est moi, je par exemple, quand je regarde CNews, je sais à quel genre d'information je vais m'attendre. Dans le service public, c'est un peu dissimulé, mais c'est notre pays qui est comme ça. On finance souvent ce que les gens ne vont pas voir. On finance une partie du cinéma, on finance le théâtre, on finance une forme d'art et tout, parce que ça manque de public. Voilà. Ou alors, service public, ça veut dire tout public. Et pourtant, Charles Lalonde, c'est pas ma tasse de thé, mais je suis assez d'accord avec lui sur ce sujet. Service public, ça veut dire tout public. Tout public. C'est service public, c'est 67 ou 70 millions de Français.
C'est payé par tous les impôts de tous les Français.
Ça doit concerner 67 ou 70 millions de Français. Ça concerne tous les publics. Et non pas une petite caste élitiste qui se distribue 4 milliards d'argent public à travers...
J'ai la moyenne d'âge. Ouais. Tu connais la moyenne d'âge de ceux qui regardent le service public?
65.
Alors, mais c'est extrêmement âgé. Hein. C'est beaucoup plus âgé que le privé. Par exemple, pour France 2, la moyenne d'âge, c'est 65,3. Oui. 67,3 pour France 5, 67,4 pour France 3 et 67,5 pour Arte. Donc en fait, on demande à tous les Français, et notamment les plus jeunes, de financer un service qu'ils ne regardent pas. Alors tu me diras, on demande aux Français de financer le train et certains ne prennent
jamais
le train.
Moi je regarde que le Tour de France.
Est-ce que c'est une mission régalienne? En fait, la vraie question, c'est là peut-être d'ailleurs que le rapport est passé à côté. C'est-à-dire qu'il fallait déjà se poser la question, est-ce que c'est une mission régalienne?
Non.
Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin que, par exemple, l'État finance l'info?
À l'époque des Romains, ils nous financent des jeux.
Non, mais c'est ça la vraie question.
Des jeux. Et moi, je sais que la meilleure télé que j'ai connue, avec des enquêtes pointues et tout, était une chaîne privée qui était le vrai Canal+. À la grande époque, voilà, on m'a montré qu'avec des fonds privés en partie, on pouvait faire une télé de qualité. Et donc, aujourd'hui, le rôle de l'État, c'est pas de nous financer une dizaine de jeux, même si j'ai rien contre Nagui. C'est pas de nous donner une information. À l'époque de Gaulle, on appelait ça une télé d'État, je rappelle. Télé d'État.
Et
information d'État. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a 4 milliards d'économies. Peut-être même plus parce qu'on peut mettre, sur le marché et récupérer de l'argent. Et par les temps qui courent, je crois pas que le rôle, tous ces gens-là, tous ces bien-pensants de la télé publique. Si demain le Front National ou le Rassemblement National prend le pouvoir, qu'est-ce qu'ils diront de la télé publique?
Ben c'est pas ça, c'est que...
Non mais qu'est-ce qu'ils diront? Ils seront plus d'accord. Ah, ils diront non, on veut plus de télé publique. Enfin, je vous l'annonce.
Le RN veut privatiser, s'ils arrivent au pouvoir.
Oui, mais pas donc.
Non. Il veut garder le service public.
Parce que Ciotti et le RN sont alliés, mais Ciotti, donc à Lonc, parce que Charles Lalonde, il est avec Eric Ciotti, non, ils ne veulent pas privatiser. Il dit qu'il faut garder le service public, mais plus restreint, en fait.
Alors,
bien sûr.
On y va. Que j'attrape, je le fous à la porte avec un rapport de chez monsieur
Charles Lalonde.
On a Siam qui est avec nous. Bonjour Siam.
Oui, bonjour.
Chef d'entreprise, est-ce que vous êtes pour garder des chaînes, en enlever, fusionner? Dites-moi.
En rajouter, ouais.
Moi, j'aimerais juste dire que le pauvre Charles Lalonde, il a pris cher, mais je trouve que son rapport, il est génial. Il a mis le doigt sur plein de choses. Faut pas oublier que c'est notre argent. Pardon ?
Vous ne l'avez pas lu, vous dites qu'il est génial.
On connaît les grandes idées.
On a les grandes idées, ouais.
Lalonde a un peu dévoilé les choses.
Et après, il a pris des coups pendant la commission.
On n'arrête pas d'en parler. Et puis même lui, il a dévoilé qu'il avait pris cher. Mais enfin oui, il a mis le doigt sur un Nagui qui se fait de l'argent sur notre dos, qui fait des jeux à longueur de journée. Et ce que je disais, c'est que maintenant, moi, la télé, ça va être des chaînes privées. Sur le public, je suis désolée, mais je trouve rien d'intéressant. Quand je cherche un documentaire sympa à regarder le soir, c'est certainement pas sur France 2 ou France 3. C'est sur des chaînes privées. La dernière fois, j'étais surprise par T18. J'ai vu un reportage sur Hiroshima à T18.
C'est donc vous qui avez regardé T18.
Allez-y.
Non, mais j'étais surprise parce que c'est une petite chaîne et il y avait un reportage génial. Et je me dis, c'est pas sur France 2 que je vais voir ça.
Après, il y a une concurrence aussi sur le numérique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont chercher de l'information sur...
On est quand même beaucoup à allumer la télé le soir en rentrant ou avant d'aller se coucher, on cherche un truc à regarder. Oui, il y a de la concurrence, mais on est quand même beaucoup à regarder la télé. Ça m'étonne pas quand vous dites que France 2, la moyenne d'âge, c'est 60 ans passés. Bah oui, c'est des jeux, ça. Ils aiment bien, mais c'est des jeux toute la journée, quoi. Ils devraient varier.
Et le Tour de France? C'est la seule chose de bien sur France. Le Tour de France, c'est le tournoi destination.
Mais c'est une fois par an.
Mais le Tour de France, tu pourrais l'avoir sur une chaîne privée.
Il est sur Eurosport, qui appartient à un groupe américain.
Non, mais je veux dire, c'est ça, à mon avis, la vraie question, c'est qu'est-ce que peut proposer service public que ne pourrait pas faire le privé. Alors, pas les jeux, parce que le privé en fait, le sport, le privé l'en diffuse, mais peut-être qu'il y a des émissions culturelles, effectivement, du théâtre, comme dit Laura.
Il devrait s'inspirer du privé dans le sens où c'est varié. Tu peux avoir un jeu, mais tu vas avoir un docu, un film, du sport.
La seule chose qui me fait peur avec la privatisation du service public, c'est que le privé, et c'est normal, fonctionne avec l'offre et la demande. Et quand on voit ce que les jeunes regardent maintenant, les trucs de télé-réalité, les machins...
Les jeunes, ils sont plus...
Ils regardent surtout pas la télé.
Très peu.
Quand même, tu regardes le nombre qui regarde les émissions... tous les petits jeunes que je connais, ils connaissent tous les dernières stars de la télé-réalité, etc. Et ce qui me fait peur, c'est que...
Oui, mais est-ce qu'ils les regardent sur la télé ou est-ce qu'ils les regardent sur leur portable? Tu vois, parce que toutes ces stars dont tu parles, effectivement, de la télé-réalité, ils ont des comptes Instagram, des comptes TikTok...
aussi la télé. Et tu vois, secret d'histoire, moi, c'est un truc qui ne doit pas disparaître.
Est-ce que tu es d'accord pour qu'il y ait des gens qui nous disent ce qui est intelligent ou ce qui n'est pas?
Non, ça, je suis complètement d'accord.
C'est un peu ça, le service public. Le service public, ils estiment avoir le monopole de l'intelligence.
Pour moi, le service public ne devrait avoir une mission que culturelle.
Oui. Siam, on va écouter Nadine du côté de l'heure. Bonjour, Nadine.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Nadine? Est-ce qu'il y a des chaînes que vous voudriez supprimer, fusionner, garder? Dites-moi.
Alors déjà, première chose, je suis dans le métier depuis très longtemps parce que, pour revenir au sujet des retraites, moi j'ai pris ma retraite à 67 ans et je continue à travailler. L'audiovisuel, je connais bien. D'abord, il faudrait peut-être demander à remettre de la publicité parce que je vous rappelle que Sarkozy avait...
Il n'y a pas de publicité.
Il y en a jusqu'à 20h. Voilà.
Après 20h, il n'y en a plus. Donc, on remercie Nagui, dont je suis la première productrice. Alors, certes, il présente beaucoup de choses, mais il fait de l'audience parce que personne ne parle d'audience.
Oui, mais est-ce que c'est ça le but du service public, c'est de faire des jeux pour faire de l'audience parce que ça rapporte de la pub? Parce que ça, c'est une logique de privé, c'est pas une logique de public.
C'est une logique de public qui n'a plus d'argent pour faire fonctionner. À partir du moment où ça fonctionne...
Mettons-le dans le privé alors.
Allez-y Nadine.
Pardon. À partir du moment où ça fonctionne. Alors effectivement, s'il devait y avoir une chaîne à privatiser, je dirais que c'est plutôt... Le problème s'est imposé il y a quelques années déjà, de privatiser la 2. Ça, ok. Mais la 3, c'est une chaîne régionale. La 5, c'est la chaîne de la connaissance. Alors, à part la dame qui nous parle d'un truc sur T18, ce qu'elle ignore, parce que beaucoup de gens parlent de l'audiovisuel sans savoir comment ça fonctionne, c'est que le programme qui est donné, c'est pas un programme qu'ils ont fabriqué, ils n'ont fait travailler personne. Ils se sont contentés d'acheter un programme qui a été produit par d'autres. Il faut savoir que les documentaires et tout ça, ce sont des coûts extrêmement importants et que tout le monde ne peut pas se le payer. Le fait de vouloir absolument supprimer des jeux... Alors, la moyenne d'âge de 65 ans, alors je sais pas, il y a des gens de 125 ans qui regardent et puis après, des gens de... C'est pas possible, enfin je sais pas, excuse-moi Olivier, mais je ne sais pas de ces chiffres.
Ah bah c'est des chiffres officiels, la télé regardée maintenant essentiellement par des personnes âgées.
De toute façon, globalement, effectivement, le nombre de téléspectateurs se réduit, il est sûr que les chaînes privées, elles, à un moment, vont réduire leurs coûts. Est-ce que le service public doit le faire aussi?
Bien sûr.
Peut-être quand même, quoi. Allez, à tout de suite.
RMC.
RMC, 9h midi, les Grandes Gueules.